Bonjour et bienvenue sur Questions de droit, le podcast de droit de la famille.
Je suis Brigitte Boguki, avocate au barreau de Paris. J'exerce depuis un peu plus de 35 ans et je suis spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Autrement dit, je ne fais que ça. Au fil des épisodes de ce podcast, je vais vous partager ma pratique, mes connaissances, parfois mes coups de gueule, pour vous permettre de mieux appréhender le droit de la famille et comprendre votre situation et celle de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne louper la sortie d'aucun épisode.
Dans cet épisode, nous allons parler du sujet ô combien douloureux de la prestation compensatoire si mal nommée. La prestation compensatoire n'est pas là pour compenser. C'est déjà une chose à savoir. Il ne s'agit en aucun cas de compenser ce qu'on a subi ou ce qu'on a perdu ou ce qu'on n'a pas eu pendant son mariage. Il s'agit, sur le plan légal, de compenser, dans la mesure du possible, la disparité financière que le divorce va créer entre les époux. Attention, il ne s'agit pas non plus de compenser les effets du régime matrimonial et de transformer, par le biais de la prestation compensatoire, un couple qui a choisi de se marier sous forme de séparation des biens en communauté. La prestation compensatoire a fait beaucoup parler d'elle pendant longtemps parce qu'il s'agissait d'une somme qui était versée mensuellement de façon viagère et que ça posait des problèmes absolument majeurs. Il faut savoir qu'il y a eu dans les années 2000 une réforme et que ça n'est plus le cas aujourd'hui. La loi prévoit que la prestation compensatoire doit en principe être un capital forfaitaire qui peut tout au plus être délayé sur quelques années, de sorte qu'il soit plus facile à régler. Sauf cas exceptionnel, il ne s'agit donc plus d'une rente viagère. La loi prévoit les éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer le montant de cette prestation compensatoire, mais il n'existe ni mode de calcul légal, ni barème. Et les éléments qui doivent être pris en compte, c'est l'article 271 du Code civil, ne sont pas exhaustifs. D'ailleurs, depuis la mise en place de ces textes, il y a eu un certain nombre de modifications, mais aussi de jurisprudence pour venir considérer que telle ou telle chose était ou n'était pas à prendre en compte. On doit donc notamment, mais pas exclusivement, prendre en compte les éléments suivants, la durée du mariage, l'état de santé des époux, leur âge, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra également continuer à y consacrer ou pris pour favoriser la carrière de l'autre époux au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, les droits financiers des époux existants ou prévisibles et leur situation en matière de retraite. Vous avez compris qu'effectivement, plus le mariage va avoir duré, plus le montant de la prestation compensatoire risque d'être important et qu'il est évident qu'à âge égal, des époux qui ont vécu ensemble pendant 30 ans, dont madame s'est arrêtée de travailler pour élever les enfants puis pour suivre monsieur à l'étranger, la prestation compensatoire risque d'être beaucoup plus importante que les mêmes époux avec les mêmes revenus mais qui n'ont été mariés que pendant 2 ans, même s'ils ont vécu ensemble pendant 30 ans. Car c'est la durée du mariage qui compte et pas la durée de la vie commune. Dans la mesure où il n'existe ni liste exhaustive, ni barème, ni mode de calcul, au fur et à mesure des années, un certain nombre de modalités se sont fait jour pour essayer d'avoir une forme de prévisibilité. Des avocats, des notaires, des magistrats, et plus récemment une société qui fait dans l'intelligence artificielle, ont créé des outils pour permettre de faire cette évaluation et votre avocat aura probablement ces outils. Certains sont gratuits, d'autres demandent un abonnement, mais ils permettent d'avoir une meilleure idée de ce qui pourrait être la prestation compensatoire, sachant que c'est quand même quelque chose qui est vraiment établi au cas par cas. Première chose à se souvenir, la réforme a fait que la prestation compensatoire n'est plus en lien, sauf cas exceptionnel, avec les torts exclusifs. Il fut une époque où l'époux qui avait les torts exclusifs ne pouvait pas demander une prestation compensatoire. C'était extrêmement choquant parce qu'en fait, ça donnait une sorte de blanc-seing à celui des deux époux qui gagnait plus ou qui avait plus de patrimoine que l'autre, puisque lui devait une prestation compensatoire mais n'avait aucune chance de pouvoir en demander une, et que donc peu importe qu'il soit en tort ou pas en tort, ça ne changeait rien. Par contre, l'époux qui se trouvait financièrement en situation défavorable, si jamais il commettait une faute et qu'il y avait un divorce au tort exclusif, il perdait son droit à prestation compensatoire. Donc non seulement c'était extrêmement injuste, mais en plus, Cela avait pour conséquence de rendre les divorces plus virulents, puisque l'époux qui devait régler une prestation compensatoire avait tendance à vouloir obtenir un tort exclusif pour ne pas avoir à le faire. J'ajouterai, à titre personnel, que c'était à l'évidence un texte particulièrement misogyne, puisque ça concernait principalement les femmes, qui étaient très majoritaires à se trouver dans la position d'infériorité financière. De telle sorte que lorsque l'on avait un mari adultère, eh bien, il n'avait pas de conséquences financières pour son adultère, tandis qu'une femme adultère avait pour conséquence de perdre tout droit à prestation compensatoire. Pour autant, évidemment, qu'elle ait moins de patrimoine ou de revenus que son époux. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas, et la faute n'a plus d'effet sur la prestation compensatoire, sauf une exception, cas est, il faut le dire, extrêmement rare. Il faut que la personne qui demande la prestation compensatoire se voit condamnée à un divorce à ses torts exclusifs, et que l'équité commande, au regard des circonstances particulières de la rupture, de la priver de cette prestation compensatoire. Un cas un peu exagéré pour vous donner une idée. Imaginons un époux violent qui se retrouverait en prison pour avoir attenté à la vie de son épouse et qui demanderait une prestation compensatoire car il est impécunieux alors qu'elle gagne bien sa vie. Eh bien, le juge pourrait faire application de cet alinéa de l'article 270 du Code civil et ne pas accepter la prestation compensatoire, même si sur le plan purement financier, l'époux serait en droit de la demander. De façon générale, lorsque les époux sont assez jeunes, jusqu'à à peu près 40 ans, lorsque la durée du mariage est faible, lorsqu'il n'y a pas de problème de santé particulier, les prestations compensatoires sont très faibles, voire parfois inexistantes. Après, c'est en fonction de l'ensemble des éléments que l'on peut le savoir, et votre avocat vous dira qu'est-ce que vous pourriez proposer ou demander de façon raisonnable. J'insiste sur le mot « raisonnable » parce que la prestation compensatoire n'est pas là pour régler les comptes entre les époux et obtenir de récupérer la totalité des salaires qu'on n'a pas perçus parce que pendant un certain nombre d'années, on n'a pas travaillé. Il est important de savoir raison garder parce que lorsqu'on en arrive devant un juge et que l'un des époux demande une somme délirante tandis que l'autre ne propose rien, alors même que la prestation compensatoire, en tout cas dans son principe, ne fait aucun doute, c'est très exaspérant pour les juges et au final, aucun des deux époux ne va être satisfait. Il vaut mieux être dans une zone de raison et ça, votre avocat saura vous conseiller sur ce qui est la zone de raison. J'aime bien également considérer que la prestation compensatoire doit pouvoir être acceptée et comprise par les deux parties si on veut aller vers quelque chose d'amiable. Et pour ce faire, il est souvent très utile de déterminer de quoi on a besoin. Tout à fait déraisonnable d'envisager la prestation compensatoire dans son montant avant d'avoir fait des calculs de ce que les époux percevront à la liquidation de leur régime matrimonial et de leur situation professionnelle à ce moment précis. Très rapidement, lorsque l'on nous parle d'une procédure de divorce, le professionnel est capable de dire « oui, il y a lieu à prestation compensatoire, ça paraît évident » ou pas. Mais par contre, le montant, lui, doit être mûrement réfléchi et pour ça, il faut vraiment avoir tous ces chiffres parce qu'avec ces chiffres en main, on va pouvoir déterminer non seulement ce qu'il est possible de faire juridiquement, mais aussi ce dont chaque époux a besoin pour continuer sa vie. Il ne faut pas oublier que dans un divorce, il y a aussi un élément psychologique important, il y a souvent aussi des enfants, et qu'il ne faut pas ignorer les besoins, notamment d'avoir un toit sur la tête, tout simplement, que peuvent avoir les deux époux. La prestation compensatoire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un capital forfaitaire. Il peut être payé en une fois ou scindé en mensualités, sur 8 ans maximum si c'est devant le juge, à l'amiable on peut faire un peu plus. Et surtout, on n'est pas obligé de donner une prestation compensatoire en capital financier. Ça peut être aussi la jouissance d'un bien, ça peut être aussi la propriété totale ou partielle d'un bien. Bref, il y a beaucoup de possibilités pour la prestation compensatoire et l'adapter exactement à ce que sont les parties et à leurs besoins. Je vous ai dit au début de cet épisode que la prestation compensatoire était sous forme de capital forfaitaire et non plus, comme avant, sous forme de rente viagère. Il y a toutefois une exception qui est prévue par l'article 276 du Code civil, c'est quand l'état de santé ou l'âge de celui qui doit recevoir la prestation compensatoire, donc du créancier de la prestation compensatoire, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Dans ce cas-là, ça peut être une rente. Mais c'est très rare et très difficilement accordé par les tribunaux. Chose très importante à savoir sur la prestation compensatoire, c'est qu'elle est due dès que le divorce est définitif. Et qu'au bout de 2 mois d'impayé, puisqu'elle est traitée comme une pension alimentaire, c'est un délit pénal, le délit d'abandon de famille. Et ça, c'est très très important parce que si vous avez des biens qui sont des biens bloqués dans la communauté ou l'indivision de votre régime matrimonial et que celui-ci n'est pas réglé par le divorce, qui est le cas très majoritairement, eh bien, la prestation compensatoire devrait quand même être payée. Vous ne pouvez donc pas vous dire « Ah ben, c'est pas grave, je pourrais payer la prestation compensatoire quand on vendra l'appartement ». Pas du tout. Elle est due tout de suite. Donc, c'est extrêmement important de préciser à votre avocat si vous avez ou pas les finances nécessaires, car si vous n'avez pas les finances nécessaires, il faut impérativement demander à ce que ce soit échelonné sur 8 ans pour que vous puissiez faire face et que vous ne soyez pas obligé de verser un capital que vous n'avez aucun moyen d'avoir, puisque la liquidation du régime matrimonial, si elle n'est pas faite d'un commun accord, ça peut prendre très longtemps. Attention aussi, parce que si vous ne payez pas la prestation compensatoire tout de suite, les intérêts courent sur cette prestation compensatoire et les intérêts sont au taux légal augmentés de 5 points au-delà de 2 mois d'impayés. Vous imaginez que ça veut dire qu'on est à plus de 5% d'intérêt, ce qui en ce moment, avec les taux d'intérêt actuels, est extrêmement rentable. Donc, d'une certaine façon, l'autre a intérêt à vous laisser ne pas payer pour que les sommes que vous devez, au final, soient très élevées. Sachez également que lorsque vous demandez à ce que la prestation compensatoire soit étalée sur plusieurs années, elle va être traitée un petit peu comme une rente en ce qui concerne son montant, c'est-à-dire que le montant va être indexé d'année en année sur la base d'un indice INSEE dont vous trouverez les modes de calcul dans le jugement et après sur le site de service public ou de l'INSEE. Enfin, et c'est très important, une fois que le montant de la prestation compensatoire a été fixé et que le divorce est définitif, vous ne pouvez plus revenir dessus quoi qu'il arrive, car cette somme était forfaitaire. Donc, même si c'est un montant forfaitaire fixé sur 8 ans, c'est quand même un montant forfaitaire, même si au quotidien ça vous paraît être une mensualité. La seule chose que vous pourriez obtenir d'un tribunal, c'est les modifications des mensualités eu égard à la situation. Enfin, il faut savoir que si le capital est renté sur plusieurs années, à tout moment, l'un des époux peut saisir le juge en demandant à ce que le capital soit payable immédiatement et se substitue à la rente, pour autant qu'il prouve que le débiteur de la prestation compensatoire a les moyens de le faire. Sachez aussi qu'en cas de décès du débiteur de la prestation compensatoire, celle-ci est exigible dans sa totalité sur la succession, sauf accord avec les héritiers. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, il ne remplacera jamais une consultation en cabinet d'avocat. Et si vous voulez me consulter, n'hésitez pas à venir sur mon blog cyber-avocat.com. Vous y trouverez tous les liens nécessaires pour me consulter, que ce soit au cabinet, en ligne ou en visio. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Questions de droit, le podcast où je vous parle de droit de la famille. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux et à me laisser en commentaire les sujets qui vous intéresseraient pour un futur épisode. À bientôt.